Bonjour Raymond de Cher au micro, et bien nous nous retrouvons, chers amis, pour l'émission Bienvenue en Europe. Et autour de moi, en plus de Monsieur Michel Bourgès-Monori, avec qui nous faisons cette émission, il y a Monsieur Knosp, du conseil d'administration de l'association Frontstock, et Monsieur Malivoire, qui était chargé de communication à Bruxelles. Bonjour messieurs, et merci d'être à Radio Rancière. Et nous allons parler, bien évidemment, de l'Europe, tout en commençant, comme d'ordinaire, par l'actualité. Alors l'actualité, bon, c'est vrai, il y a le Brexit, mais enfin bon, on attend le mois de juin pour voir comment les Anglais vont voter. Mais il y a aussi les réfugiés. Et à cet égard, pour une radio chrétienne, la visite du pape est quand même significative des choix humanistes et des choix de solidarité, et puis des choix, mais véritablement basiques, en faveur de l'homme. Alors, qu'en pensez-vous, Michel ?
Bien, bonjour Raymond, bonjour chers auditeurs. Cette crise des réfugiés est importante à souligner parce que dans le cadre européen, on est face à un grave problème. On y est revenu à pas mal d'occasions lors des missions précédentes. Mais il est clair que l'Europe est vraiment à un stade où on continue dans une bonne voie ou pas du tout. Alors, il y a en arrière-plan cette affaire du Brexit avec les Britanniques, mais cette crise des réfugiés, vu la masse des nombres de personnes qui sont concernées et de la manière dont les affaires sont traitées, eh bien, il faut bien reconnaître qu'il y a un manque de solidarité entre les pays européens. Et on est arrivé à cet accord avec la Turquie qui était vraiment une honte pour l'Europe. La manière dont ça se passe, c'est véritablement catastrophique. Alors je crois que, au-delà de cette vision qui n'est pas très réjouissante de la manière dont l'Europe fonctionne, ou plutôt ne fonctionne pas actuellement, il faut se tourner vers les aspects positifs. Et là, je crois que notre ami Jean-Pierre Malivoire, qui est justement à nos côtés aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'un déplacement depuis Bruxelles, peut aussi nous toucher un mot sur la manière dont, à titre privé, j'ai cru comprendre que les fonctionnaires de la Commission européenne avaient mis directement la main à la poche. Et à l'heure actuelle où on n'arrête pas de critiquer les eurocrates ou toute la technocratie européenne, je crois qu'il est bon aussi de montrer que, de manière très concrète, eh bien, il y a des choses qui se passent.
Oui. Jean-Pierre.
C'est-à-dire que les gens qui sont responsables de l'Europe sont réellement européens. C'est ça qui est intéressant
je pense
et solidaire.
Oui, je crois que c'est inévitable que les fonctionnaires européens, ces technocrates si vilipendés et qu'on ne considère pas comme des humains, montrent un geste fort envers ces malheureux qui cherchent à venir en Europe croyant à l'Eldorado. Alors leur déception est bien sûr à la hauteur de leur malheur et les fonctionnaires ont été invités avec la Croix-Rouge grecque et à l'initiative d'un fonctionnaire européen, il y a eu une récolte de fonds auprès qui ont permis de rassembler 165 000 euros et également plusieurs tonnes de vêtements qui ont été emmenés en Grèce pour être distribués. Et ce geste-là a été fait dans l'anonymat à juste titre, parce qu'il n'y avait aucune revendication de connaître, mais ça montre quand même
pas
qu'il
de
gloriole,
mais quand même
gloriole,
une réalité.
Mais une réalité, et c'est anecdotique dans le malheur des pauvres émigrés, mais c'est significatif quand même d'une adhésion et d'un regret de voir traiter ce problème de l'immigration tel qu'il est traité actuellement par les États membres de l'Union européenne.
Alors ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est qu'en fait là, il y a des gestes des personnes, et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'étonnent, qui disent par exemple, j'ai lu ça récemment dans le journal La Vie, je vous donne mes sources, qu'il y a des personnes qui écrivent en disant, nous pouvons recevoir des réfugiés, des familles qui disent, nous pouvons, et en fait, il n'y a pas de réponse de l'État français, enfin disons des services de l'État, parce qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de réfugiés qui ne veulent pas venir en France.
Oui, effectivement, il y a eu cet appel également du pape. Et là,
voilà, parlons aussi de l'appel du pape.
Pour l'accueil d'émigrés, mais concrètement, il est très difficile d'accueillir des immigrés parce qu'il faut qu'ils soient en règle, il faut qu'ils soient enregistrés. Les communes ne savent pas comment gérer cela. Donc il y a énormément de personnes qui ont des logements disponibles, qui sont prêtes à faire le geste.
Voilà.
Mais qui ne savent pas où s'adresser. Et là, c'est encore une mauvaise organisation.
Mais alors, donc, rappelons aussi, qu'on peut s'adresser aux préfectures, que c'est elles qui sont chargées de coordonner les affaires. Oui. Et pour les auditeurs qui disent, ben, moi, je pourrais faire quelque chose, eh bien, il y a dans les préfectures des services qui sont chargés de cet accueil des réfugiés, notamment ceux qui viennent des pays en guerre, c'est-à-dire la Syrie et en même temps les Irakiens, puisque c'est dans ces zones que... Oui. Bon.
Mais juste un mot pour dire que, avec cet exemple des réfugiés, bon, d'abord, il faut faire la différence, comme il faut toujours le rappeler, entre ceux qui sont des demandeurs d'asile et puis les migrants économiques. Donc, il y a une séparation à faire. Mais par rapport à l'état de guerre et de désespoir des vrais réfugiés demandeurs d'asile, là, on assiste à un manque absolu de solidarité européenne. Et c'est, on le souligne à chaque fois, mais on critique l'Europe. On dit l'Europe ne fait pas son boulot. Mais non, ce sont les États qui ne font pas leur travail. Et il y a un repli national qui a amené dans le passé à des catastrophes. Donc il faut bien mesurer ce qui est mesurable. C'est la faute des États que cette crise des réfugiés est là en train de semer vraiment un mauvais terreau sur les fondations européennes. Donc on est confronté à cette situation.
Alors ça, c'était la page un peu négative. Le pape a quand même été, lui, très, très clair. Le devoir des chrétiens, si j'ose dire, c'est quand même bien l'accueil. Et on rappelle que le peuple de Dieu, à l'origine, était un peuple errant, que Dieu assiste dans sa traversée du désert et qu'il mène en terre promise. Et que les chrétiens sont là pour rappeler aussi cette réalité, et nous sommes sur une radio chrétienne, donc on peut évidemment faire cette référence. Alors, il y a aussi dans la construction européenne tout un, disons, c'est vrai aussi qu'elle paraît lointaine, et pourtant, alors c'est vrai que les anciens disent, elle nous a évité des guerres, elle a permis une solidarité, et aujourd'hui, il y a aussi une fête de l'Europe, et de ce, enfin, disons, une fête de l'Europe, c'est bientôt, la semaine prochaine, c'est le 9 mai, et le 9 mai, c'est la fête de l'Europe. Et il y a aussi donc une histoire à se réapproprier pour à la fois savoir d'où on vient, pour comprendre où on va et pour comprendre les enjeux. Donc, en ce qui concerne cette histoire, nous allons demander d'abord à M. Knosp du conseil d'administration de l'association Franz Stock de nous rappeler ce qu'est cette association, de nous rappeler qui est Franz Stock, et de voir comment, en Eure-et-Loir, on a été précurseur de l'Europe. À vous, Monsieur Knosp.
Bonjour, chers auditeurs. Expliquer Franz Stock en peu de temps, c'est difficile. C'est un personnage qui est un prêtre allemand, qui a toujours eu une passion pour la France, qui, pendant une période, a accompagné tous les résistants qui étaient condamnés donc, dans les prisons de Cherche-Midi. Et puis ensuite, il s'est trouvé donc prisonnier à Cherbourg pour après accepter la direction du séminaire des Barbelés du Coudray. Et c'est là que pendant 2 ans, il a formé le nouveau clergé pour l'Allemagne, les prêtres allemands qui donc avaient été les théologiens qui étaient prisonniers, qui se sont regroupés donc au séminaire des Barbelés du Coudray. Et ce séminaire donc s'est transformé en centre européen de rencontre Franz Stock. Parce que Franz Stock était un homme de paix. Il avait, dans sa jeunesse, participé à beaucoup de rassemblements, notamment les rassemblements de Bierville avec Marc Sanguier. Et on a tenu à ce que cette journée de l'Europe soit basée sur la paix. Et la première manifestation qui a été faite, c'est en 2011, avec une création qui s'appelait « Cantate pour la paix en Europe ». Et donc sur une musique d'Alexandre Benneteau et sur un texte de Sobiaci, qui a été enregistré ensuite en 2012 dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Rochèvre.
Qui est dédiée à Franz Stock.
Oui, où est enterré.
Et où il est enterré.
Franz Stock, voilà. Et ensuite, on a souhaité tous les ans mettre un pays à l'honneur, un pays européen à l'honneur.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale et puis nous allons reprendre justement pour en savoir plus sur les festivités en l'honneur de l'Europe et aussi en l'honneur de Franz Stock.
Que te dire, que tes ouvrages commencent quoi, mais je me saudade. Ton profond marque tes deux animades. Passant sous anos sempre iguais, na vena minha cabeleira, mas esta ferida nunca desaparece.
Eh bien, après cette brève pause musicale, nous allons reparler donc de Franz Toc et des festivités qui sont organisées en son honneur et aussi pour les fêtes de l'Europe, pour fêter l'Europe.
Oui, donc je
donc
reviendrai
à Strasbourg.
Voilà, je reviendrai sur Franz Toc et l'exposition Franz Toc et la voie vers l'Europe, qui va donc être présentée à l'église Saint-Maurice de Strasbourg, qui est l'église du Parlement européen. Et ce sera aussi l'occasion de redonner cette cantate pour la paix en Europe le 8 mai, sous le patronage du Parlement européen.
Alors, à côté de ça, il y a, disiez-vous, on met à l'honneur un pays.
Voilà, cette année, on met l'Espagne à l'honneur. Alors, il y a un parallèle avec les réfugiés espagnols de la Retirada, les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale et ceux d'aujourd'hui qui cherchent un pays d'accueil pour y retrouver refuge, mais aussi compassion et solidarité. Nous avons l'obligation de retenir la leçon que Franz Toc nous a fournie comme fil conducteur, être à l'écoute des personnes les plus démunies qui vivent exclues de notre société. Nous pourrions qualifier cela comme un programme, l'humanité par-delà les frontières.
Donc en fait, tenir compte des plus fragiles.
Voilà, et de la difficulté de prendre en charge ceux qui se trouvent, pour diverses raisons, chassés de leur pays.
Et alors à Chartres, il y a aussi des...
Alors, cette journée du 9 mai et donc, permettra de voir cette exposition qui sera prolongée tout le mois de mai. Mais il y aura un concert de proposer le soir, un concert de musique espagnole. La première partie donc, sera interprétée par les professeurs et les élèves du conservatoire de Chartres. Et la deuxième partie par la compagnie d'Anna Ramo, la compagnie flamenco d'Anna Ramo, qui nous permettra de découvrir cette danse qui se danse seule.
Qui fait partie de la culture espagnole.
Voilà, et culture andalouse. Et qui, voilà, sera...
Il faut peut-être rappeler à quel endroit exactement est l'heure pour que les auditeurs soient le plus nombreux possible.
Alors, le séminaire des Barbelés se situe 36 rue des Bélangères, hein, c'est au Coudray, et le concert a lieu à 20h30.
Au séminaire des Barbelés,
voilà.
Sur place.
Donc, oui. Lundi 9 mai.
Lundi 9 mai.
Eh bien voilà, une annonce qui est faite et on espère, chers auditeurs, que vous y serez nombreux. Monsieur Knops, qu'est-ce qui vous a amené à aimer Franz Toc et à, disons, tenir à la fois Franz Toc et l'Europe?
Moi, c'est la paix. Tout ce qui permet d'éviter les guerres, tout ce qui permet l'entente entre les peuples, je crois en l'Europe, je crois en la paix. Et Franz Toc a vraiment été un modèle d'homme de paix. Je le disais, il a participé à maintes réunions, à la fois en France et en Allemagne, des mouvements pour la jeunesse par la paix. Et il a... C'est un homme de cœur, c'est un homme de paix. Et c'est vraiment le moteur. Et l'Europe, jusqu'à présent, nous a amené la paix. Depuis 70 ans, nous sommes en paix et il faut en avoir conscience parce que rien n'est gagné. On le voit avec ce qui se passe récemment. Donc essayons d'avoir conscience et essayons d'intervenir pour que cette paix soit le plus durable possible.
Et Franz Toc est précisément un symbole chartrain assez, pas toujours bien connu.
Oui, c'est pour ça que je vous posais les questions.
Au niveau national, bon, à Chartres, évidemment, on le connaît, mais en Eure-et-Loire, on doit, de manière étendue, on le connaît sans doute encore moins. Et c'est quand même un symbole extraordinaire de la réconciliation franco-allemande. Il faut aussi rappeler que le pape Jean XXIII s'est intéressé, alors même qu'il n'était pas pape, à ce que faisait Franz Stock au séminaire des Barbelés au lendemain de la dernière guerre.
Oui, il est venu trois ou quatre fois.
Aux obsèques solennelles, oui, où oui. Il y a eu toute une série de déclarations qui ont été faites dans ce cadre, oui. Et aussi au niveau du traité de l'Élysée, du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne en 1963, il y a eu précisément le rappel à Franz Stock comme un des symboles de cette réconciliation. Et je crois que c'était important de le rappeler.
Il faut rappeler aussi qu'il y a un dossier à Rome actuellement pour un procès en béatification.
Pour sa béatification. Oui, alors ça, effectivement, c'est un peu long quelquefois les béatifications, donc c'est pas tout à fait médiatique. Oui. Mais c'est vrai aussi que Franz Stock, c'est à la fois une gloire chartraine, puisque ensuite, après ses activités parisiennes auprès dans les prisons allemandes de l'époque... il est venu et il est resté à Chartres et il est mort ici, en Eure-et-Loire.
Non. Il est mort à Paris.
À Paris, oui. D'accord. Et pourquoi a-t-il été enterré ici ?
Alors, il a d'abord été enterré à Thiers, et puis c'est le père Closset qui a souhaité le faire revenir à Rochelle.
D'accord. Au moment de la construction. Et puis aussi, donc, au moment de la construction de l'église de Rochelle, qui est dédiée à Franz Stock.
Tout à fait.
D'accord. Eh bien, merci pour ces précisions. Alors maintenant, puisque nous évoquions un aspect de l'histoire de l'Europe, on peut parler, puisque c'est le 9 mai, du discours de l'horloge, dont vous nous lisez une partie, Monsieur Bourgès-Menoury.
Avec plaisir, parce que bien souvent, dans la population, on ignore même qu'il y a une fête de l'Europe. Le 9 mai... n'est pas connu, sinon accessoirement, de même que l'hymne européen n'est pas connu. La devise de l'Europe, unie dans la diversité, est très peu évoquée. Et je crois qu'il est bon de rappeler de temps à autre, et en tout cas au moins une fois par an, qu'il y a une fête de l'Europe, et cette fête de l'Europe commémore un discours prononcé par un ministre français en 1950, le 9 mai 1950, par un certain Robert Schuman, qui là aussi on est sur une radio chrétienne, mais était un grand chrétien, et qui a fait beaucoup de choses dans le cadre chrétien, mais à titre privé. Et ce Robert Schuman était, à l'époque, au lendemain de la dernière guerre, un de ces frontaliers français, comme Adenauer, comme de Gasperi l'Italien, comme le luxembourgeois Beck, ils étaient tout un groupe d'hommes frontaliers qui parlaient tous la langue allemande. Robert Schuman avait même fait ses études en allemand. Et donc, ils avaient un moyen de communication et ils étaient absolument épouvantés par ce qui s'était passé lors du dernier conflit
mondial. Je crois que c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que, de fait, ce qu'on a oublié... Maintenant, ça fait 70 ans quand même, la guerre. Donc, on a oublié que ce qui
le temps passe vite et on oublie donc c'était épouvantable. Et alors, ces gens-là étaient en plus des résistants, parce qu'évidemment, ils étaient tous farouchement anti-nazis de ce régime totalitaire qui, malheureusement, il y a des partis extrémistes qui nous rappellent fâcheusement des périodes passées qu'on voudrait plutôt oublier. Et donc, c'est ce cadre-là qui a été mis en place. Et ce Robert Schuman, avec un certain Jean Monnet, qui est... quand même bien connu en France, surtout à Chartres, puisque
oui, parce qu'il n'est pas très loin d'ici.
Et donc, il a Robert Schuman avec Jean Monnet qui tenait la plume en quelque sorte, a prononcé un grand discours à Paris où il a ouvert la main à qui le voulait au niveau européen pour se joindre à la France pour lancer quelque chose de nouveau. Et je vous lis juste deux trois extraits du fameux discours.
Quelques extraits. Après, vous allez pouvoir méditer dans une pause musicale et après on reviendra sur cette histoire, sur l'histoire de l'Europe.
Alors, je cite, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix.
Merci de nous avoir lu ces extraits. Et bien avant de les reprendre et puis de voir comment on peut les commenter aujourd'hui, avec nos amis, une petite pause musicale.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Como canta la Zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Huye luna, luna, luna.
Eh bien, nous poursuivons cette émission Bienvenue en Europe. Dans le discours de l'horloge, il était question de solidarité de fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques parlent du vivre ensemble. Et je crois qu'entre vivre ensemble et solidarité de fait, on retrouve exactement les mêmes propos. Simplement, quand on parle de vivre ensemble, il s'agit des Français appelés à se respecter dans leurs différences. Eh bien, pensons que c'est cette même solidarité qui est nécessaire au niveau européen, voire au niveau mondial, une solidarité de fait entre les personnes. Vous avez évoqué aussi dans le discours de l'horloge les questions pratiques. On met ensemble un certain nombre de richesses et c'est à partir de ça qu'on construit l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, on a mis ensemble les monnaies. Et alors, j'aimerais que M. Malivoire, vous nous parliez de ces monnaies et que vous nous parliez aussi de ce que représente l'euro, le symbole de l'euro, puisque je crois que vous avez été artisan de ce...
Oui, madame, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, en matière de concrétisation de l'Europe, l'euro est sans doute le meilleur exemple, parce qu'au départ, chaque pays ayant sa monnaie, et ça faisait partie des identités nationales fortes, et lorsque les institutions européennes et la Commission en particulier ont décidé, avec l'accord tacite des États, d'entamer la longue marche vers l'euro, on pensait, peu penser que ça se réaliserait, tellement c'était quelque chose d'impensable dans l'esprit des États membres.
Rappelons d'ailleurs, chers auditeurs, regardez dans votre porte-monnaie les effigies qui sont sur vos pièces, et vous verrez que sûrement, vous n'avez pas que des pièces... d'euros, ouais. Françaises. Vous avez sûrement la tête du roi d'Espagne, celle de la Belgique, peut-être une pièce allemande, enfin bref.
Oui,
c'est une réalité concrète que l'on manipule tous les jours.
Et qu'on oublie de regarder, et parfois même graphiquement, c'est très intéressant, d'autant plus qu'il y a beaucoup de pièces qui sont créées spécifiquement pour des événements dans chaque pays. Ils ont droit à un nombre de tirages particuliers par an.
Alors parlez-nous justement de ce graphisme, puisque je crois que vous êtes l'auteur.
Pour le graphisme, il y a peut-être un côté anecdotique de l'euro. Là, c'est la petite histoire de l'euro. Comme dans tout grand projet, il y a des petites histoires. Et là, il s'agissait de créer un symbole, mais l'origine, normalement, on confie ça à des grands professionnels, et c'est un long processus, très onéreux. Et là, ça s'est passé très bizarrement. Le commissaire européen en charge de l'euro, c'était le commissaire français de Silgi, nous avait demandé, moi j'étais responsable de l'information et de la communication sur l'euro, nous avait demandé de préparer pour le sommet de Dublin
des maquettes
des gadgets pour la presse, pour remettre à la presse et aux hommes politiques. Alors on avait fait faire des écharpes en mohair pour les chefs d'État, on voit d'ailleurs, il y a des photos, on les voit portant cette écharpe. Et puis on avait fait des t-shirts pour les journalistes. Et on nous avait dit, vous mettez un symbole à l'arrière qui rappelle la monnaie. Bon, et alors on a travaillé à une petite équipe dont j'étais responsable. On a travaillé sur des dessins qu'on a soumis. Alors on est parti du principe, on a regardé ce qui se passait sur les autres symboles monétaires, on a vu qu'il y avait très souvent deux traits, soit verticaux, soit horizontaux. C'est le cas du yen, c'est le cas du dollar, c'est le cas de la livre, c'est le cas même de la roupie. Donc toutes les monnaies ont pratiquement deux traits ou un trait qui souligne une certaine force. On est parti comme mission, il fallait un symbole qui rappelle l'Europe. Donc le E de l'Europe s'imposait, et puis quelque chose qui soit simple à dessiner. Donc on a fait plusieurs essais, on a soumis ça à des jurys de personnes prises en échantillon traditionnel pour ce type d'enquête, et puis on a imprimé les t-shirts avec ce symbole, et c'est les médias qui ont décidé, qui ont cru que c'était le symbole, que ce serait le symbole de l'euro. Et toute la presse, notamment anglo-saxonne, donc y compris le Financial Times, qui est reconnu comme pièce maîtresse dans ce domaine, ont titré « Voici le symbole de l'euro ». Et la commission s'est retrouvée avec ça. Monsieur de Silgi, à l'époque, était tout surpris du succès qui n'était pas prévu pour devenir le symbole. Et la banque centrale, qui était l'Institut monétaire européen à l'époque, a fait entériner ce symbole comme étant le symbole de la monnaie européenne. Donc vous voyez, c'est une surprise. Au départ, c'était purement pour imprimer sur des gadgets, et c'est devenu par la suite le symbole. Donc il souligne le E, c'est l'Europe, les deux traits, c'est la solidité, et en même temps, vous pouvez faire ça très facilement. On a fait des essais sur les marchés, sur les ardoises, voir comment on pouvait faire ça rapidement, et ça a eu du succès. Donc voilà quelque chose qui n'a coûté rien, puisque ce sont des fonctionnaires européens, et je me souviens avoir été interviewé dans le Financial Times, et où il soulignait que pour une fois, il y avait eu une grosse économie de fait autour de l'euro. Donc avec plein d'ironie, bien sûr, derrière. Voilà la petite histoire. Je pourrais être plus long, mais le temps passe. Mais
oui,
c'est
voilà,
intéressant
le temps passe, c'est ce que j'allais dire.
C'est intéressant de voir comment des choses peuvent être créées comme ça, de manière anecdotique et mystérieusement.
Alors, M. Knoss, vous nous rappelez une date quand même sur
oui,
les manifestations qui se font à Chartres.
Voilà, au Centre européen de rencontres Franstock, hein, puisque le séminaire des Barbelés s'appelle Centre européen de rencontres Franstock. Le 22 mai, nous aurons l'occasion d'accueillir Jean-Claude Penquier, qui interprétera les sept dernières paroles du Christ en croix. C'est une œuvre commandée à Joseph Haydn en 1786 pour la Semaine Sainte, pour l'Office du Vendredi Saint, de l'église Santa Cuava de Cadix, en Espagne. Le prêtre devait citer chaque parole du Christ suivie par un accompagnement musical. Et Jean-Claude Penquier, c'est un très grand pianiste international et qui a longtemps habité l'Eure-et-Loire. Il a déménagé un petit peu.
Donc voilà, des rendez-vous pour vous,
le
chers auditeurs.
Le 22 mai à 17h30, pardon.
22 mai, 17h30. Et à tous, je dis bonne semaine à tous. Et puis venez à ces manifestations pour l'Europe.